Action is entre rock'n'roll et soul, un jaillissement de joie et d'énergie, la voix d'un vieux, hein, 60 ans quand même, qui n'a pas renoncé à l'excitation entraînée par la musique qui a illuminé son enfance et changé sa vie. Alors vous pouvez imaginer à quel point il m'est facile de m'identifier au Britannique Mike Scott qui vient de publier un tout nouvel album qui porte le titre de cette chanson qu'on vient d'entendre, Where the Action Is. Son groupe s'appelle les Waterboys et il est un de ceux qui ont illuminé les années 80, témoignant d'une foi inébranlable dans le pouvoir de la musique pour enflammer, exalter et régénérer ceux qui en font comme ceux qui en écoutent, comme vous ce soir. L'époque était alors à la froideur, au cynisme et au divertissement sans conséquence. Alors à égalité avec des groupes comme U2 et les Simple Minds, et bien les Waterboys de Mike Scott ont aspirer à transmettre une certaine exaltation lyrique, laquelle pouvait agacer certains critiques parce qu'elle était aux antipodes du cool, qualité qu'il plaçait au-dessus du reste. Et voilà, et ça ne correspondait pas à leur vision, faut dire, assez souvent étroite du rock'n'roll. Cependant, Mike Scott échappait à ses critiques. Certes, sa voix avait ses accents paroxystiques et désespérés, mais on pouvait la rapprocher aussi du bard irlandais Van Morrison, un musicien alors très estimé, voire intouchable, entre blues, jazz, soul et musique celtique. En plus, Mike Scott avait volontiers des intonations chantées-parlées qui pouvaient rappeler Bob Dylan et Lou Reed, qui, malgré des albums assez inégaux dans les années 80, même certains carrément médiocres, étaient relativement intouchables. Il y avait de toute façon quelque chose de classique et de traditionnel dans la voix et dans l'approche de Mike Scott. Il y avait quelque chose aussi de folklorique dans la musique des Waterboys, qu'on pourrait situer en fait entre folk et soul. Folk, oui, pourquoi ? Parce qu'il y avait un violon irlandais, celui du fidèle Steve Wickham, au premier plan des chansons de l'album This Is The Sea, très remarqué en 1985, et puis soul parce que Mike Scott et les Waterboys recouraient souvent à des choristes de gospel. Alors, Mike Scott et les Waterboys, auxquels beaucoup prédisaient, à la fin des années 80 un destin à la U2, n'ont, c'est vrai, pas fait la carrière qu'on attendait d'eux. Mais ça convenait parfaitement à Mike Scott, qui n'a jamais cherché justement à faire carrière. Il y a un album que les Waterboys ont enregistré et publié en 1988, Fisherman's Blues, qui a marqué un tournant. Alors aujourd'hui, on le considère comme un classique. Et c'est vrai qu'il a été bien accueilli et c'est pas trop mal vendu, surtout au Royaume-Uni, il a obtenu un disque d'or. Mais enfin, il a peut-être pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir, il était peut-être trop en avance. C'était un album dominé par des sonorités acoustiques, des instruments traditionnels, c'était unplugged avant la lettre. Un peu, si vous voulez, comme si Joe Strummer chantait, accompagné par le groupe avec lequel Bob Dylan avait enregistré l'album Desire. Oui, c'est un album qui avait peut-être quelque chose de prophétique, en avance sur son temps, anticipant à sa façon le son de groupe américains comme les Jayhawks ou bien Wilco. Mais enfin, à l'époque, il faut dire que les Waterboys avaient face à eux une sérieuse concurrence. Oui, le groupe R.E.M., enfin R.E.M., sans parler de U2 qui était en plein triomphe, et puis le grunge était sur le point de déferler, et je vous parle même pas d'un groupe comme Guns N' Roses qui enflammait sérieusement un public beaucoup plus jeune. Toujours est-il que Mike Scott, qui s'est de plus en plus orienté vers une sorte de classicisme, voire de traditionalisme, a, dès le début des années 90, cessé d'occuper les premiers plans. Et pour autant, sa fougue et son talent sont restés intacts, comme en témoigne le nouvel album des Waterboys, qui s'appelle donc, je vous le rappelle, Where the Action Is. À propos d'action, eh bien, le groupe sera en tête d'affiche du festival de Landerneau, ce sera le 10 août prochain, une belle occasion de reprendre contact avec ce musicien qui a toujours gardé une foi intacte dans le pouvoir de la musique. Tout de suite, un trio américain de Denver, c'est peut-être des enfants spirituels, sans doute sans le savoir, de Mike Scott et des Waterboys, s'appelle The Lumineers, c'est un nom qu'ils ont inventé, ça ne veut absolument rien dire. Un trio à la composition inhabituelle, un chanteur et guitariste s'appelle Wesley Schultz, bon, ça c'est banal, un batteur, ça l'est également, et une violoncelliste, ça l'est moins, accessoirement pianiste, et puis c'est tout, voilà. Après des années pleines d'espoir passées à New York à proposer leur musique dans l'indifférence générale, c'était au tournant des années 2000 et 2010, ils étaient obligés de bosser dans des bars, et rien ne se passait pour eux. Ils sont ensuite rentrés sans illusion dans le Colorado, et puis brusquement, c'était au début des années 2010, je crois en 2012, le succès a surgi pour les Lumineers qui signent ce soir, ils signent un nouveau titre qu'on écoute ce soir sur France Inter, ça s'appelle Gloria.
Heaven help me now, heaven show a way, get me back on my own two feet. I would lie awake and pray you don't lie awake for me. Every night away, every day alone, get me back on my own two feet. I would lie awake and pray you don't lie awake for me.
Salvation Army Girl, une fille de l'armée du salut, c'était interprété par un groupe originaire des Catskills, hein, ce sont les montagnes qui sont situées au nord de la ville de New York, à peu près une heure et demie de voiture, par les Felice Brothers, les frères Felice. Alors ils viennent précisément d'une petite ville qui s'appelle Kingston, où leur père avait une entreprise de menuiserie. De fait, ce sont de vrais frères, hein, de lointaine origine sicilienne, j'imagine ça devait se dire Felice. À l'origine, ils étaient trois, maintenant ils sont plus que deux, soutenus par des copains, alors interchangeables, parce que ça a pas mal changé depuis 10 ans. Ils avaient l'habitude, initialement, de jouer sur le porche de leur maison et d'inviter leurs voisins, si bien qu'ils ont reçu tant d'encouragement de la population avoisinante qu'ils sont partis tenter leur chance à New York, c'était vers le milieu des années 2000, comme musiciens de rue. Ils ont eu énormément de succès, ils jouaient partout, au coin des rues, dans les couloirs du métro. James chantait et jouait de l'accordéon. Ian, qui écrit les chansons, jouait du violon. Et puis Simon et l'aîné était batteur, il est parti depuis. Alors ils ont pas tardé à se faire remarquer, et ça fait une dizaine d'années qu'ils enregistrent des albums très frais, très séduisants, et leur musique peut évoquer une version punk de la période dite des Basement Tapes de Bob Dylan, ou tant, vous savez, où celui-ci vivait à la campagne près de Woodstock, justement, dans l'état de New York, et où il enregistrait régulièrement durant l'été 67 dans la cave de la maison où les musiciens du groupe The Band vivaient en communauté tout près de chez lui. Alors les Felix Brothers sont un public fidèle, leurs concerts sont généralement pleins et ils commencent à vivre, selon leur témoignage, correctement de leur musique. Enfin, comme l'a précisé James, l'accordéoniste et le chanteur, à condition de pas tomber malade et de pas avoir à remplacer le frigo. Parce que pour se faire de l'argent en plus, il a raconté dans une interview récente qu'il exécutait parallèlement des travaux en plein air comme couper des arbres et transporter le bois. Le bois, il connaît, son père, aujourd'hui retraité, était d'ailleurs menuisier, et ses copains, eh bien, ce sont des fermiers ou des gérants de bistrot. Le dernier album des Felix Brothers, Undress, est paru il y a un an. Alors, dans une interview assez intéressante, parce qu'elle éclaire beaucoup ces régions rurales de l'État de New York qu'on connaît mal et qui sont à l'image de beaucoup de régions identiques dans tous les États-Unis. Ian Felix évoque les changements survenus dans cette région, ce qu'on appelle entre guillemets la gentrification, on dirait plutôt la boboisation ici. Et oui, des urbains qui arrivent là, fatigués de la vie en ville, fatigués du stress, fatigués des contraintes, des frais qui les étranglent. Alors ils ont un peu d'argent, en tout cas un peu plus que la plupart des locaux. Ils achètent des terrains, ils retapent des maisons, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des lieux branchés, et qu'est-ce qui se passe? Les prix montent, et beaucoup de locaux, exaspérés, leur en veulent et les détestent. Et ce sont ceux-là qui ont voté Donald Trump et qui s'apprêtent d'ailleurs à le refaire. Et il y en a beaucoup. Ian et James Felix racontent qu'ils sont un peu entre les deux et que leurs sentiments sont ambigus. Voilà, tout de suite, on retrouve un musicien qui, à ma connaissance, n'a pas besoin de débiter des stères de bois pour arrondir ses fins de mois. Il s'agit du Californien Beck, en pleine activité en cette année 2019. Cette nouvelle chanson que vous allez entendre, So Lightning, est une rencontre assez stimulante entre le style de ses débuts, voix, chant et parler, guitare sèche blues jouée en slide, glissée, si vous préférez, et un son R&B électro plus contemporain, puisque cette chanson est le fruit d'une collaboration de Beck avec Pharrell Williams. Un nouvel album de Beck, Hyperspace, est attendu dans les mois qui viennent, peut-être avant la fin de l'été, mais c'est pas sûr du tout. Ce qui est sûr, c'est que Beck s'embarque d'ici une quinzaine de jours pour une grande tournée américaine avec le groupe Cage the Elephant, un très bon groupe, bien apprécié en France, avec lequel il a collaboré sur une chanson cette année. Et puis aussi, pour certaines dates, Beck sera soutenu par l'excellent groupe texan Spoon. There was a day, so like you. There was a day, so like you. Whatever.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Je me sens stupide, je me sens inutile, je me sens dingue. Non, c'est pas une confidence que je vous fais ce soir sur France Inter, mais c'est par cet aveu que l'Australienne, Courtney Barnett débutait sa chanson toute récente qu'on vient d'entendre. Everybody here hates you, hein, tout le monde te déteste ici. Une chanson qu'elle a interprétée au début du mois au festival Wheel of Green où elle a fait un carton face à un public qui était plutôt venu pour écouter du rap et du R&B. Faut dire que l'authenticité de Courtney Barnett, qui n'a pris du rock que le meilleur, la franchise et l'énergie sans rien du pire, hein, l'envie d'être cool et l'autosatisfaction, a de quoi convaincre les plus indifférents. Déjà, elle est une guitariste au jeu très varié, très intense. Elle fait la rythmique et les solos toute seule, hein, puisqu'elle joue en trio. Et puis surtout, on l'a entendu dans ses intonations, chanter, parler, hein, comme on dit. Elle est capable de se mettre en scène, de raconter des histoires, comme d'ailleurs les comiques dont elle s'inspire. Beaucoup de femmes et d'hommes, urbains et banlieusards, se reconnaîtront dans ses paroles. Je cite, je vais à Loving Hut, hein, c'est une chaîne de restaurants végétariens. Je vais chez le coiffeur, ça change rien. Je me sens pourri, mais c'est pas grave, on s'habitue. Un autre musicien d'une toute autre génération, il pourrait être le père de Courtney Barnett, qui a toujours cultivé un sens aigu de l'autodérision, c'est Peter Parrott, c'est un londonien, et son groupe les Only Ones, même s'il avait rien de franchement punk, a été assimilé au mouvement dans les années 77-78. Peut-être parce que il avait des intonations lasses et dégoûtées dans sa voix, Peter Parrott, et qu'il avait un talent particulier pour écrire des chansons qui sonnaient comme celles que Lou Reed aurait pu écrire et interpréter dans un très bon jour. Faut dire, Peter Parrott, il n'a pas eu une vie très heureuse. Il a passé le tiers, encore je suis généreux, peut-être la moitié de sa vie dans une sorte de réclusion à Londres, ne vivant que pour ses doses d'héroïne. Il s'en est sorti à plus de 60 ans. Et il y a quelques années, il a fait un retour éblouissant. Oui, un album de retour que surclasse même le nouveau Human World, où il est dans une forme, mais fantastique. Ces mots ont comme une évidence cristalline. Cette chanson s'appelle Love Comes on Silent Feet. L'amour arrive sur la pointe des pieds. On pourrait dire Peter Parrott ce soir dans Very Good Trip sur France Inter.
Wish I could. Drown on the love's gonna be where you least expect it. Drown on the love's gonna come. You know they say that love comes on silent.
sleeping. We're naked in bed, tossing and turning. Grass a disgrace. Mow the lawn Tuesday. The grass in our face. The jungle is coming, and so is the drought. The people are screaming.
Un autre revenant après Peter Parrott, c'est l'Australien Robert Forster qui interprétait Inferno, entre parenthèses Brisbane in Summer. Robert Forster fut dans les années 80 la moitié, enfin pas la moitié, un des cofondateurs des Go-Betweens, c'est-à-dire un des meilleurs groupes de rock indépendants de la période, au temps où cette distinction avait peut-être encore un sens, c'est-à-dire au temps où tout un continent du rock échappait totalement aux radios généralistes et au grand public, où personne n'aurait jamais eu l'idée d'utiliser, je sais pas, une chanson des Pixies, un exemple au hasard pour vous vendre une bagnole. Bref, les Go-Betweens étaient, pour dire les choses simplement, une sorte de R.E.M., enfin R.E.M. Australien. Ces Australiens-là, ils avaient débarqué à Londres il y a bien longtemps, c'était au début des années 80, ils venaient donc de la ville de Brisbane, et ils avaient apporté à Londres un vent de fraîcheur. On peut dire d'eux qu'ils avaient d'une certaine façon ouvert la voie aux Smiths, d'autant qu'ils publiaient leurs albums chez Rough Trade, qui était donc le label où les Smiths se sont fait connaître. Depuis 2006, tristement, Robert Forster est en deuil de son alter ego Grant McLennan, autre compositeur et chanteur du groupe. Son dernier album solo, Inferno, est un de ses plus beaux dans sa simplicité et son laconisme. Beaucoup des amis de Forster sont morts, lui-même est étonné d'être encore vivant. Et ses nouvelles chansons ont cette tranquillité et cette autorité naturelle de ceux qui ont beaucoup vécu et savent de quoi ils parlent. On pourrait dire la même chose d'un musicien bien plus illustre, Bruce Springsteen, pour ne pas le nommer, qui fait preuve à 70 ans, on a du mal à le croire, d'une forme vocale quasi surnaturelle. Dans cette chanson que vous allez entendre, il y a un rythme et une ambiance un peu latine, on n'est pas loin de Willie DeVille. Dans ce Sleepy Joe's Café, c'est l'évocation désuète d'un bar ouvert après la Seconde Guerre mondiale par Joe, hein, Sleepy Joe, Joe l'endormi, dans une banlieue de Los Angeles, hein, San Bernardino. Et là, des groupes viennent jouer du blues à 7h du soir pour distraire les travailleurs après une journée de labeur. Alors il y a des camionneurs, il y a des motards qui s'arrêtent, il y a des filles qui sortent sur le parking pour se remaquiller. C'est comme une carte postale aux couleurs passées. Bruce Springsteen, Sleepy Joe's Café.
There's a place out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. At 7 the band comes in and locals dance the night away. Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes 5. As a red sun sets in the ocean, I start to come alive. Summer girls in the parking lot.
Ego Trip, Mishka Assayas.
Bien non, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pas une vieillerie de 1982, pas du tout. Mr. Lonely, c'est le nom de la chanson, est signé par un groupe d'aujourd'hui qui s'appelle Midland, qui a été formé par de jeunes cadras qui ont fait, alors je me suis renseigné, carrière dans les métiers de l'image. Le chanteur Mark Weistrack, au physique de mannequin, il l'a d'ailleurs été pour des sous-vêtements, paraît-il, a représenté une marque de basket, entre guillemets, éco-responsable. Voilà. Les trois musiciens posent avec de grands chapeaux et rencontrent un grand succès aux États-Unis grâce à ce rock'n'roll country plus que rétro qui rappelle un peu le style de l'excellent Dwight Yoakam, un chanteur et guitariste révélé à la fin des années 70 et qui était d'ailleurs ami avec le défunt Joe Strummer de The Clash. Oui, alors Midland, c'est un peu fabriqué, d'ailleurs c'est ce que beaucoup de traditionnalistes sincèrement amoureux de ces styles anciens ont fait remarquer, mais c'est très bien fabriqué, un peu comme un rêve devenu réalité. Tout de suite, un excellent groupe de Portland, injustement méconnu, Blitzen Trapper, c'est un des préférés de Jack White, moi aussi d'ailleurs, qui sonne ici comme un étrange croisement entre, mettons, certaines chansons de Nirvana et le groupe Wilco. En tout cas, les chansons que le chanteur Eric Early compose depuis l'enfance ont une trame harmonique très particulière qui n'appartient qu'à lui et qui fait qu'on peut distinguer assez vite les chansons de Blitzen Trapper, un groupe aussi original que sous-estimé. La chanson toute récente s'appelle War is Placebo. Still, baby, stay in the cars. Tell me where you are. If this war is placebo, yeah, I know. Stories in the stars, clutching handlebars. If you started to believe, then love is an empty road. It's darker. Je préfère quand tu me mens, j'arrive pas à encaisser toute ta franchise. C'est pas des choses faciles à dire, mais c'est ce que clame Brandon Benson dans cette courte et percutante chanson Live a Lie, qui figure dans le dernier album des Raconteurs, le groupe que ce musicien de Détroit a formé il y a 13 ans déjà avec son vieux copain Jack White, alors que celui-ci était encore associé à son ex-femme Meg au sein des White Stripes. Les Raconteurs ont donné il y a un mois un concert mémorable à l'Olympia. France Inter y était, j'espère que vous avez entendu ça, pour lancer leur excellent album Help Us Stranger, le troisième seulement en 13 ans. Franchement, ça valait la peine d'attendre. Pour se quitter, deux voix de crooner, la première on la connaît depuis longtemps, c'est celle de l'anglais Morrissey, qui vient de sortir un album de reprises de chansons vraiment très peu connues des années 70, principalement, hein, c'est-à-dire son adolescence, s'appelle California Sun. Alors, celle que je vous propose a un titre homonyme d'une chanson des Smiths, hein, le groupe où Morrissey s'est révélé, Suffer the Little Children. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est une chanson qui a été composée et créée en 69 par une chanteuse américaine bien bien oublié aujourd'hui, Buffy St. Mary. Elle a eu son heure de gloire grâce à une chanson qui avait pour titre Soldier Blue, Soldat Bleu. C'est un film qui a beaucoup marqué ceux qui l'ont vu en 70, une sorte d'anti-western qui prenait la défense du peuple Cheyenne exterminé par l'armée Yankee. Buffy St. Mary, qui chantait avec un vibrato strident, était elle-même amérindienne. Elle a consacré d'ailleurs une grande partie de sa vie à défendre les droits des Indiens d'Amérique. Suffer the Little Children, repris par Morrissey, c'est une attaque dans l'air du temps contre le conformisme des familles américaines moyennes qui conditionnaient dès la petite école leurs enfants à être des citoyens modèles broyés par un système sans âme. Morrissey y a trouvé un écho dans le monde contemporain. pour se quitter, dommage de couper la belle voix théâtrale du mystérieux Orville Peck qui chantait Dead of Night. C'est tout nouveau, ça sonne comme un classique d'un autre temps. Alors pourquoi mystérieux? Parce qu'on ne sait rien de lui. Orville Peck, c'est pas son nom. Il porte sur les photos divers masques de cuir, certains prolongés par de longues franges. Et Dead of Night, ça raconte la virée de deux aventuriers gays qui passent par Las Vegas. Et Orville Peck dit qu'il a été très marqué par un groupe qui s'appelait Lavender Country, qui était un groupe de Seattle, qui était au début des années 70, qui abordait dans ses chansons des thèmes ouvertement homosexuels, ce qui était plutôt rare dans la musique country. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Merci à Stéphane Ronxa qui a réalisé l'émission. Merci à Henri Bérec à la technique. Merci à Zohar Ben Smali et à Romain Couturier. Demain, toute autre chose, on célébrera un grand guitariste de blues irlandais. Je ne vous en dis pas plus. France Inter, il est 22h.